Effectivement, nous allons aborder ça très rapidement avec la différence de l'identité humaine chez Caïn et la différence de l'identité humaine chez Abel, par exemple. Nous allons voir quand. Nous allons voir ces deux hommes qui sont des frères jumeaux, qui portent une identité humaine naturelle égale. Ils sont jumeaux, mamash, c'est comme ça que la Torah est décrite. Et l'un va réagir d'une manière et l'autre va réagir de l'autre manière. Et nous allons essayer de savoir d'où cela vient. C'est très exact. Mais ce que je veux dire, c'est que formellement, a priori, cette disponibilité de conclure « donc le monde est créé » ou « donc le monde n'est pas créé », c'est un problème qui est à l'échelle universelle. Chaque personne a une achiza égale sur ce problème, alors que s'il fallait décider par la raison, il y aurait toute une grande partie de l'humanité qui serait disqualifiée parce qu'incapable de faire de la métaphysique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà ce que je voulais indiquer au début. Au moins, en tout cas, la problématique du problème est universelle. N'importe quelle conscience que ce soit, mon épicier, le facteur ou le recteur de l'académie peut réagir de la même manière en tant que conscience morale, en tant que intelligence et que raison, ils ne peuvent pas réagir au même niveau. Est-ce que c'est bien clair? Si la certitude concernant ce problème et tous les autres qui en sont la conséquence passe par le volume d'intelligence ou la cuité d'intelligence, alors, vous voyez, ce projet du salut par la pensée philosophique, ce serait catastrophique, tragique. Les rabbins ont refusé cette manière de poser le problème parce que c'est méprisant pour la majorité de l'humanité. Vous comprenez? C'est à picorsiche dans le sens étymologique. Hein? C'est-à-dire faire passer le salut par l'intelligence, c'est condamner les créatures du bon Dieu à basculer dans l'enfer, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est pas à une échelle universelle. Les rabbins du Talmud ont eu une réaction de mépris contre ce mépris des philosophes pour la majorité de l'humanité. Vous comprenez? C'est-à-dire, bien entendu, l'intelligence est une grande valeur, elle est indispensable comme moyen. Mais si c'était la fin ultime du salut, alors c'est ça, Picorsius. Je vous ouvre une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de ces problèmes avec notre maître, le Rav Kook, alors il nous dit toujours, soyez prudents, il ne faut jamais à la légère traiter quelqu'un d'apicoros, parce que pour être apicoros, il faut d'abord être très intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir être apicoros, il faut d'abord être Talmid Chacham. Alors la raison pour laquelle il ne faut pas traiter à la légère d'apicoros, c'est parce que peut-être il n'est pas Talmid Chacham. Alors vous l'avez insulté pour rien.
Comment?
Pardon ? Voilà, il y a eu échec. Il y a eu échec. Mais l'histoire a marché, et bien nous retrouvons plus tard de nouveau ce problème de Caïn et Abel dans une certaine identité, vous devinez que c'est celle d'Israël, où il peut y avoir une issue. Entre Jacob et Esaü. Oui, c'est de nouveau les deux jumeaux qui reviennent. Bien, alors voilà, pour cette première notion, si on peut conclure là-dessus, il s'agit d'une expérience d'ordre moral et qui implique toute une philosophie de l'histoire. Et secondairement, elle est une conviction d'ordre métaphysique. Mais ça ne commence pas par là. Hein? Qu'est-ce que
vous dites? Vous avez dit tout à l'heure que quand, si on n'est pas d'accord qu'on est créé, qu'un créateur est tout son fait, c'est-à-dire qu'on suppose que Dieu n'existe pas.
Que je suis. Que je suis moi à l'être, oui.
On ne peut pas avoir de morale.
On ne peut pas
toucher à la morale. Un minimum de morale, on peut se sentir d'accord que l'on est créé.
C'est ce que j'ai dit, mais vous avez raison. Bon, maintenant, ceci.
Ce regard de cette conception.
Non, mais je comprends. Bien sûr, je comprends. Mais ceci dit, l'histoire de la culture s'est développée, et Dafka, ces philosophes, enfin, ces consciences philosophiques qui rejettent la notion de création ont quand même une morale. Enfin, mais comme nous le verrons, d'une part, une morale qu'ils n'arrivent pas à fonder, et d'autre part, c'est une morale qu'ils ont apprise des autres. Que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que l'on appelle la morale laïque ou la morale philosophique est en réalité la morale révélée par la Bible mais laïcisée par les autres. La morale dont parlent les philosophes, ils l'apprennent de la conscience morale, mais la conscience morale, elle, a pour fondement l'expérience de la création. C'est-à-dire, voilà, on pourrait aborder ce problème par un autre biais, et ça c'est ce que l'histoire de la culture a fait. Je voudrais vous dire un principe général qui est très important. Nous nous situons dans un temps culturel où il est très difficile de catégoriser les personnes humaines culturelles en tant qu'êtres de culture en ayant reçu l'éducation de la Bible ou n'ayant pas reçu l'éducation de la Bible. Tous ont reçu l'éducation de la Bible. L'éducation de la Bible a diffusé dans toute la culture occidentale. Vous comprenez? Par conséquent, vous pouvez avoir ces synthèses paradoxales d'hommes qui développent leur analyse au niveau du registre philosophique tout en désignant des valeurs prises du registre biblique. Et c'est le cas de Descartes, c'est le cas de Kant, c'est le cas de Spinoza, c'est le cas de Bergson, c'est le cas des grands philosophes. Lorsqu'ils parlent des valeurs morales, ils désignent quoi? Les valeurs de Racine et Adibero. Ils ne parlent pas d'autre chose.
Le moral de Bergson, c'est pas le héros, c'est pas le Baal Shuvah.
Pas forcément, pour être Baal Shuvah, il faut être un héros. Mais c'est pas ce dont parle vraiment Bergson. C'est-à-dire, pour que quelques vertus que ce soit réussissent, selon Bergson, il faut un héroïsme. Bon, c'est ce qu'on a vu dans le verset Rigzou Veltahetaou, il faut Rigzou. Mais ça ne signifie pas que la morale de Bergson est uniquement la morale de Baal Shuvah. Oui, effectivement, il y a un certain. Je vous dirai pourquoi il y a un certain héroïsme à conclure, donc je suis créé. Parce que tout est disposé avec la permission que j'ai de me prendre pour l'être suprême. Vous comprenez? Et c'est en cela que j'essaie de vous décrire cette vertu. C'est une vertu de consentement aux valeurs. Les valeurs sont vulnérables. Elles sont exposées à l'irresponsabilité de ma liberté. Je peux violer la valeur. Vous voyez le drame de la valeur, vous comprenez que ça dit Rira Tchamaïm. Vous voyez de quelle vertu il s'agit. La valeur est là, comme dit la Mishnah du Pirkei Avot, Hareshut Netuna. Hareshut Netuna. La permission de violer la valeur m'est donné. Et vous voyez ce courage qu'il faut pour ne pas violer la valeur. C'est ce qu'on appelle, plus fondamentalement encore que la ranava ou irat shamaim, c'est sniout. Sniout. C'est ça le commencement de la vertu. Et d'ailleurs, dans le récit de l'histoire du premier homme, comment le premier homme exprime sa découverte de la conscience morale, il se sent nu, sniout, il faut qu'il se recouvre. Oui. La valeur est exposée, elle est dénudée, il faut la recouvrir. Vous savez, quand Kapara, commencez à penser en hébreu, vous verrez que c'est beaucoup plus énergique, il y a plus de relief. Vous suivez ça? Les chaper, ça veut dire recouvrir. Les chafarta auto, bakofer. Kapara, ça veut dire recouvrir. La valeur est nue, elle est vulnérable, elle est exposée, et nous apprenons dans la tradition que la conscience morale commence par être féminine. Parce que cette expérience de la nudité, cette expérience de la tsniout corollaire, est plus intense dans la conscience de la femme que dans la conscience de l'homme. Vous voyez que le problème moral est entré par le geste de la femme, avant d'entrer par le geste de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Laissez-moi vous dire pourquoi, Alpia Kavala, c'est très simple. Le geste de la création, ça consiste à mettre en dehors ce qu'il y avait en dedans. Essayez de comprendre ça, extérioriser. Par conséquent, c'est ce qui avait le plus dedans qui est le plus dehors. Oui. Et la conscience de soi à la périphérie de l'extériorité, si j'ose dire, elle est plus féminine que masculine. Je veux dire, quelle est la conscience de l'identité humaine qui a le plus conscience du caractère vulnérable et exposé des valeurs, donc de la nudité, c'est plus la femme que l'homme. Il en résulte que l'identité féminine est plus intérieure que l'identité masculine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que, c'est clair, hein? Est-ce que l'identité féminine est plus profonde du point de vue de l'identité humaine que l'identité masculine, que c'est elle qui est plus sensible au commencement de la moralité qui consiste à être cette expérience de la nudité à recouvrir. Dans l'expérience de la nudité à recouvrir, il y a l'expérience de Yirat Shamayim. C'est plus qu'une équivalence, c'est Hainuhar, c'est ça même. Et c'est pourquoi, du point de vue de l'enseignement de la sagesse, La grande consigne que donne la Gemara, c'est El Megalim Rachepatim, El Alismuim. On commence à dévoiler les valeurs qu'à ceux qui sont capables de pudeur. Pourquoi? Parce que la valeur est vulnérable. On peut la saccager. Areshut Netuna. Et la première valeur, c'est Yirat Shamayim. Et l'homme est absolument libre, de saccager les plates-bandes, comme dit le Zohar. Il y a un beau jardin là, et il n'y a pas de gardien. Alors on rentre, avec ses gros sabots. Et vous voyez, à Réchou Tessouna, la liberté est donnée. Vous comprenez comment les choses s'organisent? C'est ça, c'est ce Zerhout monumental d'Abraham. Alors pour nous maintenant c'est facile, parce que Abraham nous a enseigné de quoi il s'agit. Et puis ça a traversé l'histoire comme une éducation familiale, beaucoup plus que comme une éducation scolaire. C'est important, je reviendrai là-dessus. Ce sont des valeurs véhiculées par l'identité, j'ai pas dit l'hérédité. par l'identité, beaucoup plus que par la scolarité. Le peuple juif, enfin Israël, c'est pas un maître et des élèves, c'est un père et des enfants. Comprenez bien la différence avec ce que peut être le monde de la philosophie. Hein. Et c'est secondairement de l'enfant qu'on apprend qu'un élève, c'est un élève. N'est-ce pas? C'est le fils. Qui... Oui. Je voudrais juste terminer cela, n'est-ce pas? Pour répondre à la question qui vient de m'être posée, effectivement, on m'a demandé si c'est un grand zéhout. C'est un grand zéhout. Mais c'est très différent de ce que les chrétiens appellent une grâce. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la nature humaine, cette possibilité, et à l'échelle universelle. N'importe qui est capable de cela. Il faut le faire. Héroïsme, oui. Mais n'importe qui peut le faire. Ce genre de héros-là, n'importe qui peut l'être. Alors, on voit que pour certains tempéraments, c'est très difficile. Oui, alors il faut avoir pas pitié. Pitié, c'est méprisable. Il faut avoir compassion. Il faut souffrir avec, aider. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des conditionnements humains pour qui c'est très difficile. On reprendra Caïn et Abel tout à l'heure. Pour d'autres, c'est facile. Alors, on les félicite, mais ça, c'est ce route à vote. Ça leur vient de leur chorafim. Vous voyez, pour certains, mais c'est-à-dire, sauf, ça ressemble à quelque chose de l'ordre de la grâce. Mais ce n'est pas la grâce à la manière de la théologie chrétienne. Et à la limite, ce que vous trouvez dans la querelle entre Pascal et les jésuites, enfin cette grâce de type janséniste, c'est que dans un arbitraire pur et absolu, le dieu des jansénistes distribue la grâce comme ça, comme on joue aux cartes. Alors toi tu as eu l'as de pique et l'autre a eu le... Mais ça non, c'est pas ça. Oui. Mais vous voyez de quoi il s'agit, hein? C'est finalement ce que je fais de moi-même. En donnant la réponse à ce problème métaphysique, je dis qui je suis du point de vue de la moralité. Alors, je reprends la question qui m'a été posée tout à l'heure. Il peut y avoir des hommes non religieux, non croyants, qui n'ont strictement aucune idée de « j'ai un créateur » qui refusent cela et qui, d'autre part, sont authentiquement moraux. Mais parce que la personne humaine est une synthèse paradoxale et le temps a marché, ils sont moraux de la morale de la Bible au nom d'autres principes. C'est essayer de bien comprendre cela. C'est bien clair? Je veux dire que le fondement organique de la moralité, c'est la conscience du Créateur, c'est Abraham, mais bien entendu, par éducation, il peut y avoir synthèse paradoxale d'un homme qui est athée au point de vue de la philosophie et cependant moral au point de vue des valeurs morales. Ça peut arriver. Et ça peut même arriver en grand nombre. Mais la multiplication des exemples paradoxaux n'empêche en rien le cadrage du problème. Oui, Ken? Oui.
Deux questions. Tu avais dit que la morale provient seulement de la Bible et des autres dans les athées, ils ont la morale de la Bible. Alors comment ça se fait que les philosophies de l'Extrême-Orient, le bouddhisme, le hindouisme, ça qui ne connaissent pas la Bible, sont arrivés à peu près à la même morale?
Non, pas du tout. D'abord, ils ne sont pas du tout arrivés.
Ils sont à peu près arrivés à la même morale.
Pas du tout. D'abord, il n'est pas du tout certain, premièrement, que ce soit la même morale. Deuxièmement, il n'est pas du tout certain que ce soit une morale tout court. Il n'est pas du tout certain que la table des valeurs, le système dont vous parlez, soit ce que nous appelons dans la philosophie occidentale la morale. C'est pas du tout certain. D'autre part, je dois vous dire que ces ensembles humains procèdent de lignées humaines qui se sont détachées du rameau central tel que le décrit la cohérence biblique, enfin le récit biblique, et que nous verrons déjà, malgré tout, l'expérience morale s'approfondir. Il y a un seuil d'émergence avec Abraham, mais antérieurement à Abraham, il y a des étapes que nous énumérerons assez rapidement, d'où procèdent ces grands ensembles, et en fin de compte, de l'identité et de l'expérience spirituelle à la manière de l'Extrême-Orient. Mais c'est tout à fait un autre monde spirituel et philosophique. C'est, si vous voulez, c'est Ahizar Enaïm. C'est une apparence de dire que les valeurs qu'ils disent sont ce que nous nommons, nous, dans la culture occidentale, en parlant des valeurs morales. C'est une toute autre chose. Et d'ailleurs, je pense que, dans le fond des choses, il y a vraiment un tempérament qui refuse, pour des raisons d'ordre spirituel, qui refuse cette conviction qui a été entrevue par eux, mais qui a été refusée, qu'il y a un créateur, c'est bien la mentalité extrême orientale. Et nous verrons peut-être pourquoi, si nous avons le temps de voir cela. L'objectif de la spiritualité extrême orientale, c'est pas du tout, comme en Occident, d'arriver, d'aboutir à, en fin de compte, exister par soi-même, ce qui est le résultat de la notion de création. La notion de création ne situe comme autre que le créateur. Mais l'objectif de la spiritualité extrême orientale, c'est de refuser cela. c'est de se fondre dans l'être en soi, c'est de se fondre vers la création, l'acte de création. S'il y a eu un créateur qui m'a créé, l'objectif de la spiritualité extrême orientale, c'est de défaire cela. Hein? Et parce qu'il y a aussi une expérience de l'identité humaine pour qui exister par soi, c'est insupportable, c'est la source de toutes les souffrances, c'est le drame humain vient de cela. Que je sois moi, c'est cela qui me fait souffrir, et par conséquent, c'est l'exigence du retour dans le sein maternel. C'est dire à Dieu, tu as mal fait de me créer, je préfère être comme j'étais avant. Vous voyez à peu près. Et cette discussion se trouve dans le Talmud, entre Beit Hillel et Beit Shammai. Nuachlosh et Nivra, ou Nuachlosh et Lonivra. Nilnu vegamru, Nuachlosh et Lonivra, ou Ve'achshav et Nivra, Mayaase, Yaasov v'atorov v'mizvot. Vous comprenez ? C'est connu, cela. Ken ?
Je crois que dans la, quand je pensais que la philosophie extrême orientale arrive à une morale, je veux dire qu'il arrive à un autre état, un autre ignore, même en défiant l'existence de Dieu, il arrive à une morale. Même si ce n'est pas les 10 commandements, c'est seulement 9.
Bien, alors écoutez. Par postulat, parce que nous venons seulement de découvrir le problème, nous allons admettre cela par postulat, qu'effectivement, c'est dérivé de ce qu'a été la révélation de la moralité. C'est, c'est greffé sur une spiritualité incompatible en réalité avec la perspective de la moralité. Et nous avons un midrash que je voudrais que nous analysions très rapidement, je vous donnerai le verset sur lequel il s'accroche, c'est le verset 5, il me semble bien, ou 4 du deuxième chapitre. Alors, nous avons commencé une exégèse sur cette notion. Je pense que tu l'auras cité, Behibaréa. Pas encore. Alors, vous allez prendre le verset 4 du deuxième chapitre de Bereshit. Alors, nous allons faire cette exégèse pour éclairer cette notion. Alors, nous allons trouver d'abord, vous y êtes, verset 4 du chapitre 2. Et les toldot hashamayim ve'aret Behibaréa. Vous suivez tous? Tout le monde sait lire au moins? Hein? Nous avons une promotion d'un bon cru alors. Alors, et les toldot hashamayim behibaréam, je traduis, et voici, toldot, l'histoire, les engendrements. Oui? Mais voici, les engendrements, l'histoire, on a un peu avancé rapidement. Oui, déjà, même, l'histoire nous apparaît en filiation de la notion de création. L'histoire, c'est la continuation du créé. Toldot. Les engendrements de ce qui a été créé. Et les toldot hashamayim behibaréam. Alors là, vous avez un tout petit hé. Oui? C'est là-dessus qu'il y a un midrash que je vais vous citer. Mais et les toldot hashamayim behibaréam, dans leur fait d'avoir été créé. Voici l'histoire des cieux et de la terre, behibaréam. Littéralement, dans leur fait d'avoir été créé. Beyom asot hashem elokim eretz veshamayim, le jour où Hashem Elohim a fait Eretz Veshamayim, terre et ciel. Bon, alors je laisse de côté l'ensemble des 1000 problèmes d'exégèse qu'il y a sur ce verset. Je vais vous mettre en évidence le mot de Behib Baréam. Le Midrash dit, tant que Abraham n'était pas apparu, la création n'avait pas de fondement. Tant que Abraham n'était pas apparu, la création n'avait pas de fondement. À partir du moment où Abraham est apparu, la création a eu un fondement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée générale du Midrash. Ensuite, on verra dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un monde a été créé en vue d'être pris en charge par un homme qui fera réussir, par une manière d'être homme, qui fera réussir l'histoire de ce monde qui a été créé. Et tout se passe comme si ce monde qui a été créé est taloui, il est, comment dire, suspendu à est-ce qu'il va réussir ou pas, jusqu'à ce qu'une manière d'être homme capable de le prendre en charge va pouvoir apparaître. Alors tout se passe comme si, suivez bien, pourquoi on nous a mis ce petit jet dans la Masora? Tout se passe comme si, tant qu'Abraham n'était pas apparu, il y avait écrit Beboam. Mais dès qu'Abraham est apparu, il y a écrit Behibaréam. Et quelle est la différence? Regardez bien les lettres. Regardez bien les lettres. Behibaréam, vous avez les lettres de Abraham. Beboam, vous avez les lettres de Abraham. Voilà ce que veut nous montrer le Midrash. Alors retraduisons maintenant les deux termes. S'il y avait écrit Bebor Am, dans le fait que le monde a un sujet qui est le créateur. Bebor Am, dans leur création. Jusqu'au temps d'Abraham, le monde est possédé uniquement par le créateur, Bebor Am. Mais à partir du moment où Abraham est devenu Abraham, Et dans cette mutation qu'indique le changement de nom, quelle est la mutation? C'est cette mutation de conscience qu'on nous indique dans l'histoire d'Abraham. C'est un homme qui a découvert qu'il avait vraiment un créateur. Alors à partir de ce moment-là, le Midrash nous dit, à partir de ce moment-là, c'est grâce à Abraham que le monde est créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde, en tant qu'il est créé, a un fondement. Il va vers la réussite. Il y a un seuil irréversible. La prise en charge, du point de vue du mérite, du monde qui a été créé, fait que Abraham, en tant qu'il est la première conscience humaine qui reconnaît qu'il a un créateur, assume l'existence du monde. Donne une justification au fait pour le monde d'avoir été créé. Jusqu'à Abraham, c'est talouille. C'est talouille. Peut-être que ça peut rentrer encore dans le chaos. Ça peut retourner dans le chaos. Peut-être qu'il y aura échec. Mais voilà, que Abraham prend en charge Mshutaf Lakadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il devient comme si c'est grâce à lui que le monde a été créé. Voilà déjà un premier aspect de l'identité d'Abraham qui est là. On trouve dans le vocabulaire des philosophies extrême-orientales, je reviens à votre problème, cette espèce de personnage qui s'appelle Brahma. Je ne pense pas que ce soit le même. Hein? Je ne pense pas forcément, enfin, ça serait trop farfelu. Hein? Peut-être, Itachen chez Itachen, mais enfin, Brahma. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense au... peut-être qu'il s'agit là d'une référence à l'expérience antérieure d'Abraham, est nommé du même terme. C'est possible. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on voit que c'est à partir d'un certain moment du développement de l'histoire humaine que l'autonomie, l'autonomisation de la créature est fondée parce qu'il y a, de façon irréversible, au niveau de la conscience humaine, et c'est le Zchut Avot au niveau du premier Av, c'est son nom, il s'appelle Av, Abraham, hein, d'avoir réaliser cette expérience que c'est comme créature que je me connais. Alors le monde trouve un fondement au niveau de la description spirituelle. Voilà ce que je voulais indiquer. Est-ce que vous comprenez déjà mieux en quoi effectivement cette notion nous apparaît d'abord comme étant une expérience de vertu avant d'être une expérience d'ordre philosophique ou rationnel? C'est extrêmement important. Si nous posons la question, mais pourquoi la Torah nous apprend que le monde a été créé, alors que nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire créer philosophiquement. Vous comprenez? Eh bien, la réponse que donne le Midrash, et que cite Rashi en particulier, c'est pour nous apprendre ceci. C'est pour nous confirmer que, et c'est pour véhiculer cet enseignement, que l'homme se connaît comme ayant reçu l'être, et que c'est le fondement de la moralité. Nous verrons très rapidement pourquoi. Si l'être que je possède, je l'ai reçu, alors il faut payer le prix pour qu'il soit à moi. Et le prix qu'il y a à payer, c'est la moralité. Vous comprenez ça? C'est-à-dire l'objectif messianique, enfin l'objectif métaphysique, philosophique, à partir du moment où j'ai pris conscience que je n'existe que dans la mesure où j'ai reçu l'être, alors je ne suis pas à moi. Je ne suis pas à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? On m'a prêté l'être que je suis. Et pour que je devienne vraiment, alors il faut que je me rachète, littéralement que j'achète moi-même, que je paye le prix de moi-même, pidyon nefesh. Et le prix à payer, c'est effectivement la vertu. Vous voyez comment, ce que je disais, je ne sais pas si vous avez suivi les conférences de cette semaine, ce que je disais à une de ces conférences, que la finalité de la moralité est d'emblée ontologique. À quoi ça sert, la moralité? Ça sert à obtenir l'être que j'ai reçu. Vous voyez? Ça plonge, si vous l'identifiez, dans une expérience psychologique très profonde de la conscience humaine. La découverte de soi est un traumatisme, habituellement. Parce que je me découvre comme existant, mais comme ne me possédant pas moi-même, comme ne possédant pas l'existence que je possède. Et c'est d'une autre manière, si vous voulez, un peu l'expérience d'Abraham. Ah, c'est donc que j'ai un créateur. Alors il faut que je rachète l'être qu'il a mis en dépôt. C'est un picadon. Hein? Il faut que je justifie, il faut que je rachète. Et voilà pourquoi je vous disais que les vertus n'ont comme fondement que premièrement cette vertu-là qui consiste à me savoir créer. Ça veut dire le fondement de la moralité dans sa finalité ontologique, c'est premièrement de savoir que je suis créé. C'est là que l'entreprise de la morale va commencer. C'est le premier homme qui perçoit l'identité humaine de cette manière, dans cette réalité-là, je n'existe qu'en tant que je suis créé, que qui va fonder la nécessité de la morale. Or, le temps culturel a marché, et finalement, tous les peuples ont entendu cet enseignement d'Abraham à travers différentes filières. Et peut-être que la filière du brahmanisme en était une, j'en sais rien. Hein? Mais voilà quel est l'essentiel. C'est que la moralité vraie commence par une expérience qui est d'ordre théologique, qui est d'ordre religieux, mais pas philosophique d'abord, morale d'abord. Est-ce que c'est bien clair? Qu'est-ce que la question de la ministre ?
Puis je reviens à cette notion de écoute. Nous avons admis que cette conscience morale, cette vertu, vient d'une certaine écoute.
Ah, j'ai pas dit ça.
Cette vertu, là.
C'est un écoute. J'ai pas dit que ça vient d'un certain écoute. C'est une autre phrase.
C'est un
écoute.
C'est encore plus.
Bien sûr. Non, je voudrais. Cette
écoute, c'est en grande partie due à l'éducation. Je crois que c'est très important, l'éducation. C'est-à-dire l'éducation, société, entourage, etc.
Ça peut être, ça peut être. Mais pour Abraham, c'était pas. D'Afka.
Pour Abraham, c'était pas parce que c'était un cas spécial. Mais pour, disons que pour tout individu, cette écoute vient de l'éducation qu'il a reçue.
Non, je m'excuse, pas forcément. Ça peut être. Pour tout individu, ça peut être. C'est-à-dire, nous sommes, nous, privilégiés à la suite de 3600 ans d'histoire hébraïque, et par conséquent, c'est en général notre cas. Mais dans tous les cas, c'est authentifié que si nous refaisons l'expérience par nous-mêmes. Nous avons peu reçu par éducation. Si je ne refais pas par moi-même, c'est encore dans le doute. En tout cas, comme je disais l'autre soir, au moins dans un hassi doute, la moitié d'un doute. Tu comprends ce que je veux dire? Non, j'insiste.
Je peux quand même continuer ma question. Quelle serait la faute d'un Yéhoudi? Quelle serait la faute d'un Yéhoudi qui a grandi dans un milieu justement qui ne lui a pas donné cette éducation?
Eh bien, c'est. Une
réponse que j'ai avant la faute d'Albanie.
Non, c'est pas cela. Nous sommes actuellement dans un temps. Effectivement, c'est la réponse. Nous sommes actuellement dans un temps où, à part les cas privilégiés, de ceux qui ont eu, j'allais dire la grâce, la chance, mais c'est plus compliqué que ça, parce que sauf les gormim, il y a toujours une raison, même si on ne la connaît pas. À part ceux qui ont eu, si vous voulez, la situation d'être dans un milieu où l'éducation a facilité, ou sauf ceux qui sont arrivés, on ne sait pas pourquoi, dans cette école, mais il y a aussi des gormim qu'il faudrait, c'est mystérieux tout ça, pourquoi vous êtes là, plutôt vous que d'autres, j'en sais rien, ou du moins je le subodore, mais... vous n'êtes pas posé cette question, hein? Lorsqu'on fait une certaine expérience, subitement on se dit, ben, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Bon, ben, ça vient depuis Terrache, ça se prépare. Hein? Mais c'est par là que passe, si vous voulez, le Scrutabot. Oui, mais tout ça, ça nous est très mystérieux, c'est mystère. On ne sait pas les tenants et les aboutissants. Mais on peut comprendre qu'il y a des tenants et des aboutissants. En tout cas, pour revenir au problème, nous sommes dans une génération, déjà depuis assez longtemps, D'après le Hafetz Chaim, c'était déjà de son temps. D'après le Rambam, c'était déjà de son temps. Et d'après Rabbi Yehuda Kadosh, c'était déjà de son temps. Peut-être que d'après Moshe Rabbeinu, c'était déjà de son temps. Elle est grave. Nous sommes dans un temps, si vous voulez, où Enador Betikuno, les choses ne se passent pas normalement. Par conséquent, on considère que ceux qui n'ont pas eu cette aide de la Sviva, de la Vira, du Scrutabot, sauf, sont considérés comme Tinok Shenishva. Tinok Shenishva, ça veut dire, l'image qui nous est donnée, c'est un enfant d'une famille qui a été volé par des bohémiens, et il se retrouve dans la civilisation occidentale, bohémienne. Eh bien, il n'a pas faute. En principe, d'après la loi du Shulchan Aruch, c'est le Beit Din qui est responsable, c'est pas lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà la responsabilité du Beit Din. C'est un autre problème. Mais est-ce que tu avais compris la réponse? Mais je reviens à la question que tu as posée. Bien entendu, dans la plupart des cas, ceux qui sont dans ce cas, ce geste d'Abraham devenant Abraham leur a été facilité, mais dans tous les cas, cela n'est finalement récupéré à l'échelle personnelle que si on a revécu cette expérience. Et en général, c'est le jour de la bar mitzvah que cette expérience est vécue en tant que havaya, en tant que expérience de vie. Et encore une fois, je vous dirais le procédé d'Abraham, nous revenons au problème de la nourriture tout à l'heure. Comment Abraham s'y prenait pour faire comprendre ce qu'il avait compris? Il avait ouvert une auberge et il donnait à manger aux gens. Échelle. Vous connaissez ça, il avait installé Échelle, c'est Achila, Shtia, puis il y a deux Girsaot, Hasid ou Mitnaged, Limoud ou Lina. Il y a aussi les Vaya, ça c'est l'alliance israélite. C'est-à-dire Achila Shtia Limoud, si vous voulez, Achila Shtia Lina, si vous voulez. Parce que la nuit en étudiant dans Yeshiva d'en haut, c'est plus. C'est-à-dire qu'il avait installé donc une auberge, comme vous le savez, qui était ouverte aux quatre côtés, pour que ceux qui viennent de quelques directions de l'espace géographique et spirituel n'aient même pas l'effort à faire de contourner pour aller à l'autre porte. Vous connaissez cela? Yehi betecha betva'a la hachamim. Non, Yehi betecha patouach la revacha. Je pense que c'est comme ça ici. Il n'y a pas quatre portes d'entrée, là, sauf ça. C'est bien. Alors, je finis de vous rappeler ce midrash. La France est arrivée plus loin, hexagone. Je sais pas, il y a six. Mais lorsqu'il avait donné à manger aux invités, alors les invités voulaient le remercier. Alors c'est lui qui a fait le premier zibou. Il a dit Nebarer Shachalou Michelou. Vous comprenez, c'est par rapport à l'expérience de la nourriture qu'il a mis en évidence j'ai un créateur. Vous voyez la logique profonde du Midrash. Oui, quelque chose.
Sur le plan de la nécessité de payer l'être créé,
oui.
On peut dire donc avec certitude que le fondement de la doctrine chrétienne repose sur un vol.
Sur?
Sur un vol.
Attendez, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est joli d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. c'est plus qu'un vol, c'est un gnalabarat, c'est un rapt. Oui, je veux dire qu'en réalité, il se paye sur notre dos. Hein? C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il paye avec la chair d'Israël. C'est bien clair, je pense. C'est-à-dire que c'est Israël qui rachète le salut des autres. Comment?
Il n'est nullement question d'acquérir son âme.
Justement, d'Afka, on ne peut pas. Voilà la réaction de la conscience chrétienne, on ne peut pas. Qui peut Israël alors qu'il le fasse pour Emmanuel? Oui, c'est ça la réaction. C'est bien clair.
Là, ça
a
déjà
deux, mais on peut acquérir
le monde de l'homme.
Non, il suffit de communier avec la manière dont Israël s'y prend pour faire le salut du monde, d'après Bédartam, d'après les chrétiens, c'est-à-dire se faire perpétuellement ressusciter, crucifier, ressusciter, crucifier, ressusciter. C'est l'histoire d'Israël que raconte et nous la font faire, les Tzorei Hasmam, de telle sorte d'être assuré que le salut vient des Juifs, comme ils disent, que Israël sauve le monde. Et la réaction de De Gaulle il n'y a pas longtemps, c'est pas une parenthèse, c'est en plein dans le problème. La réaction de De Gaulle à sa conférence de presse, quel était le grand regret de De Gaulle? Alors les Juifs, c'est plus les Juifs de la galoute. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on va être sauvé? La grandeur des Juifs, c'est la galoute. Et vous vous rappelez de cela dans la conférence de presse? Bon. C'est ça la réaction de la conscience chrétienne, réaction de panique. Alors si Israël ressuscite sans crucifixion ultérieure, alors on est perdu. Oui. Le prix des Juifs, c'est de souffrir pour l'humanité. Alors là, la grandeur, noble liturgie, vous rappelez tout ce qu'il a dit. Alors là, oui, ça vaut la peine. Mais Israël du Tzahal, bon, ça c'est dangereux, comment on va sauver le monde? Voilà la réaction du... Nous avons un verset pour nous, c'est Tzahali Varoni Yosef. Vous voulez qu'on prenne 5 minutes, oui, et puis on enchaîne sur une étude directe. Si vous voulez, donc, nous enchaînons sur une étude directe pour faire directement la phénoménologie d'un des récits de la Torah concernant l'identité humaine, où vont nous apparaître effectivement étroitement liées ces deux expériences. À propos de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la prise de conscience de soi comme créée est le fondement de la conscience morale. C'est bien clair, c'est là où nous nous trouvions, et ensuite nous reviendrons sur différents thèmes qui ont été apparus, qui sont apparus dans l'analyse de tout à l'heure. Alors nous allons prendre ce problème au niveau des engendrements à la deuxième génération, c'est-à-dire essayer d'éclaircir par rapport au problème moral ce qu'il y a entre l'identité de Caïn et l'identité de Abel. Et voilà comment nous allons procéder. C'est directement dans la lecture du texte, dans l'exégèse. Nous allons suivre l'exégèse de détail et la forme même, la manière dont s'y prend la Torah pour raconter ce qui est arrivé à cette étape des Toladot va nous faire apparaître effectivement cette problématique déjà à un second niveau. Je m'explique. À la première génération, le problème moral se trouve être distribué entre deux sujets humains, mais de façon intériorisée, l'homme et la femme. C'est à la première génération, Adam et Chava. Ici, nous nous trouvons à la deuxième génération, où le problème moral des rapports de personne à personne, à l'intérieur de cette notion générale de la prise de conscience de soi comme créée, sur laquelle j'aurai d'ailleurs à revenir assez souvent, eh bien, va être quand même déjà extériorisé du point de vue de l'extériorité des deux consciences, c'est entre le frère et le frère. La problématique morale entre l'autre et l'autre est à un premier niveau intérieur, c'est l'homme et la femme. Donc c'est le problème de la première génération, et nous savons qu'il y a eu échec. Et par conséquent, il y a une conséquence de cet échec. Déjà, la deuxième génération est, en quelque sorte, handicapée, un peu, comme nous allons le voir, par l'échec du premier moment, de la première génération. Mais là, je situe le problème moral des rapports entre les consciences, des rapports entre les sujets. Il s'agit du frère et du frère, voilà, deux identités humaines, alors qu'à la génération précédente, c'était intériorisé à l'intérieur d'une identité humaine unique. Adam, c'est Ish et Isha. Alors cette couche du problème moral intériorisé entre Ish et Isha est beaucoup plus profonde, beaucoup plus délicate à analyser, peut-être une autre fois vous l'étudierez, parce que cela introduit dans le problème moral un facteur beaucoup plus profond qui est le problème de la sexualité. Mais le tout va avec, si vous voulez. Alors nous avons extériorisé le problème au niveau de la deuxième génération. Alors nous commençons la lecture du texte. Très exactement, au début du chapitre 4. Je voudrais, dans la lecture même, déjà vous donner un certain nombre d'indications concernant les problèmes d'exégèse, les problèmes de limite proprement dit, mais nous n'en retiendrons que des éléments qui nous permettront de poser notre question. Veha Adam yadar et hava ishto. Veha Adam yadar et hava ishto. Or, l'homme, ha Adam, Yada a connu et Hava, Ishto, Hava, sa femme. Vatahar, et elle conçut, Vateled et Caïn, et elle enfanta Caïn. Bien, alors avant d'aller plus loin, premier problème qui se pose pour nous dans l'exégèse de ce texte, et qui est important comme nous allons le voir, c'est que ce n'est pas la forme habituelle de raconter un engendrement. Ce n'est pas la forme habituelle au langage du Mikra. Habituellement, ce problème a été signalé par Nahmanit, par le commentaire de Nahmanit. Habituellement, il faudrait que nous ayons l'expression suivante, Vatara, Vateled Ben, Vatikra, Shemo, Kaïn. Je le dis en français, elle conçut, elle enfanta un fils et elle nomma son nom Kaïn. Mais là, nous avons une expression autre, Vateled et Kaïn, comme si le nom de l'homme à la deuxième génération ne pouvait pas être autre que Kaïn. Donc ici, que nous n'avons pas un nom qui désigne une certaine destinée que l'on donne à un être, mais cette destinée et sa nature propre coïncident, s'identifient. Il est Caïn. L'expression habituelle que je vous ai citée, Vatelet Ben, elle enfantait un fils. Et son identité se dénomme par l'identité de son père. Fils, ça veut dire il est l'étape suivante de l'identité antérieure de son père. Et puis on lui donne un nom, ça veut dire on lui donne une destinée. L'Ikro Beshem, ça veut dire donner une destinée. On le destine à être ceci, et sa destinée est nommée par le nom qu'on lui donne. Mais ici, nous sommes à un niveau beaucoup plus profond du fait de nommer quelqu'un. Sa destination et son identité naturelle s'identifient, coïncident. D'emblée, il s'appelle Caïn. C'est pas que c'est un fils de Adam à qui on donne le projet d'être Caïn, c'est qu'il naît comme étant Caïn. Ou si vous voulez, d'une autre manière, de la même manière que Adam, c'est le nom d'homme, Caïn aussi, c'est un nom d'homme. Adam, nous pouvons élucider, c'est pas l'objet de l'étude maintenant, dans le problème qui nous occupe, Adam signifie celui qui existe en tant que se sachant créé. Oui, Adam, en tant que premier homme, a une expérience de la conscience humaine que nous ne pouvons plus avoir, sinon en la récupérant du point de vue de la transformation de la mémoire en savoir. Enfin, je veux dire, c'est toute une assise d'études qui doit pouvoir, le cas échéant, nous faire récupérer cette conscience de soi qu'avait Adam en tant qu'il est défini comme étant le premier homme, sorti des mains du Créateur, il se connaît. Pour lui, il n'y a pas de doute qu'il est créé, il a été fabriqué comme ça. Vous comprenez? Mais dès la deuxième génération, plus aucun homme n'a le privilège de se connaître comme... Parce que, à partir de la deuxième génération, on se connaît comme naissant d'une femme et pas sorti des mains du Créateur, naissant d'une mère et pas sorti des mains du Créateur. Vous voyez la différence? Pour le dire en langage imagé, Adam n'avait pas de nombril. Hein? C'était un avantage. En fait, il n'avait pas à se psychanalyser le nombril. En fait, il n'avait pas de nombril. C'est-à-dire, d'emblée, il se connaît comme créé. Tandis que Caïn va se connaître d'emblée comme autrement. Vous comprenez? Vous voyez la différence de nature de la prise de conscience de soi qui va apparaître. Vatelet et Caïn, et elle enfanta Caïn. Donc la Torah nous prévient que c'est Caïn qu'il se nomme dans sa nature. Est-ce que c'est bien clair? Et non pas à un second niveau, qu'il a l'identité de Adam, Ben Adam, la fille de Adam, et qu'on lui donne comme destination d'être Reuben ou Shimon ou Lévi. Vous y êtes? Et c'est la mère qui explique, c'est Hava qui explique. Va-t-elle être Caïn, va-t-elle, et elle juge, qu'est-ce que c'est que cet être que, qui est apparu là dans l'enfantement? Va-t-elle, Kaniti Ish et Hashem. J'ai acquis un Ish. Voilà, c'est surtout sur ce Kaniti qu'il faut réfléchir, qui interprète Caïn. Qu'est-ce que ça veut dire Caïn? C'est Hava qui nous dit que, quelle est son identité de cet homme. L'homme qui prend conscience de lui comme étant acquis. Kaniti. Caïn, ça veut dire l'homme qui prend conscience de lui comme étant acquis. C'est, en germe, dans le Shoresh, dans la racine, c'est l'homme philosophe, c'est l'homme apikoros, c'est l'homme qui prend conscience de lui comme n'étant pas créé, puisqu'il prend conscience de lui comme l'identité de l'humanité devenue consciente en un individu. Il est sorti d'une femme, il est sorti de la matrice humaine, il n'est pas sorti des mains du Créateur. Vous comprenez l'expérience de soi qui est radicalement différente chez Caïn. Et nous allons voir là, si vous voulez, la situation existentielle de ce pauvre Caïn, parce que finalement, il est à plaindre, n'est-ce pas ? C'est naturellement qu'il est destiné à une certaine péripétie, qu'il a échoué. Il aurait fallu qu'il soit un super-héros. Il aurait fallu plus encore qu'il soit aidé par Abel. Et peut-être Abel ne l'a pas tellement aidé pour pouvoir accéder à la conscience morale. Et on sait ce qui arrive de celui qui ne peut pas accéder à la conscience morale dans l'expérience d'Abraham. Finalement, il devient assassin. Et s'il n'est pas assassin, en fait, dans les sociétés contemporaines, parce qu'il y a la peur du gendarme qui remplace Yirat Shamayim, c'est parce qu'il ne peut pas. Mais en intention, c'est la limite du solipsisme. C'est la limite du solipsisme, comme système philosophique, comme prise de conscience de soi. C'est moi qui existe, ça veut dire que je suis seul à exister vraiment, dans les limites de la prise de conscience de moi par moi, et les autres sont des invités dans mon monde. Et s'ils me gênent, je les supprime. Mais la prise de conscience de Caïn. Heureusement qu'il y a les gendarmes. Heureusement qu'il y a Morah et Malchut. C'est Ilmal et Morah, et il se fait Haïm Bela. Bon, je ne lis pas ça au niveau du saut, mais au niveau du pshat, c'est très clair. Keve Mitpale, Isloma et Malchut. C'est Ilmal et Morah, il se fait Haïm Bela. Comme disait, je pense que c'est Pascal citant Montaigne, ou l'inverse, Montaigne citant de façon anticipée un Pascal antérieur, le moi est haïssable. Le moi est haïssable. Pourquoi ? Parce que le moi est assassin. Parce que le moi est assassin. Une phrase de M. Lévinas, le moi est plus que haïssable, le moi est assassin. Dès que j'ai dit moi, j'ai assassiné les autres. Dès que j'ai dit moi, ça veut dire le monde c'est moi. Et qu'est-ce que font les autres dans mon monde? Oui, c'est le problème de Caïn. Et il va découvrir subitement qu'il y en a un autre dans son monde, que c'est Abel et qu'il est en plus. Alors Abel est en danger dans le monde de Caïn, dans le principe. Dans le principe, si je prends conscience de moi à la manière de Caïn, tous les autres sont des Abelim. C'est-à-dire que tous les autres sont finalement en danger. D'ailleurs, lorsque Abel a été tué, ça c'est un drousse, lorsque Abel a été tué, il a fallu que Caïn prenne le deuil. Shivataim yokav Caïn. Il a pris le deuil pendant 7 générations, pas pendant 7 jours. C'est joli. Bon, alors revenons au problème. C'est que, vous voyez, cette première forme de prise de conscience de soi, lorsque tout à l'heure tu as distingué les deux halakim à l'intérieur de l'humanité, ce qui serait porté plus facilement à reconnaître donc il y a un créateur, ceux qui sont portés au contraire à reconnaître le contraire, vous vous souvenez de la question de tout à l'heure, cette division d'humanité en deux groupes que tu as désigné tout à l'heure, c'est l'humanité à la manière de Caïn, l'humanité à la manière de Havel. Et nous naissons toujours avec cette problématique. Nous sommes plus ou moins Caïn, plus ou moins Havel. Il faut faire triompher l'un sur l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès que je prends conscience de moi comme né d'une femme, né de l'humanité, alors cette prise de conscience existentielle me masque le fait que premièrement je suis Adam, c'est-à-dire sorti des mains du Créateur. Il va falloir attendre Abraham pour redécouvrir cette couche profonde. Abraham qui est nommé par le Mikra Adam Gadol Va'anakim. Le deuxième Adam, le Adam de la rédemption. Vous comprenez cela, hein? C'est-à-dire que jusqu'à Abraham, on n'est pas arrivé à aller plus loin que la sensibilité humaine à la manière de Caïn ou celle à la manière de Abel, et dans les deux cas, c'est une catastrophe, parce que l'un est assassin, l'autre victime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que cette destinée humaine où l'homme est ou assassin ou victime? Il faudra attendre Abraham pour que la morale soit fondée. Bon, je reviens donc maintenant au commencement de l'analyse. Vous voyez donc dans le... oui, c'est le thème général. La catégorisation de l'humanité, c'est toujours les uns et les autres. Hein? Alors, les médecins et les malades, les etc., etc., et finalement les Caïn et les Abel. Vous devinez déjà dans quelle forme de prise de conscience de soi, plus tard, Israël va se situer, à partir d'Abraham. Mais je vous dis tout de suite, pour pas qu'il y ait de confusion, Israël n'est pas un Abel pur et simple. Enfin, Israël n'est pas un Hevel de cette problématique-là. C'est un Hevel inassassinable, ce qui est très différent. Ça, nous verrons plus tard. Alors, première remarque, si vous voulez, nous sommes dans le verset concernant Caïn. Va Télédet Caïn, va Tomer, et elle interprète, elle dénomme, elle définit, qu'est-ce que c'est que cette manière d'être homme, ce premier Ben Adam, qu'est-ce que ça veut dire être Caïn? Ça veut dire prise de conscience de soi comme être acquis. L'humanité, je vais plus loin là, l'humanité, par le sroot de l'engendrement de soi par soi, s'acquiert. Vous voyez? Et par conséquent, ce Caïn, c'est l'individu humain, la personne humaine, qui ne peut pas savoir qu'il a un créateur. Et chaque fois qu'il entrera en relation avec Dieu, le vrai Dieu, comme il l'entend, lui, ça devient une idole, comme nous verrons, ça devient un faux Dieu. Si j'ose dire qu'il est handicapé par sa propre nature, il est condamné à être tzduki, apikoros, verroulé, verroulé. Vous comprenez? Naturellement, il est comme ça. Dieu va situer à côté un révèle qui est Roi Aïson, qui est le berger. Le berger, entendez tout de suite cela dans le sens sacerdotal. Le berger, vous voyez la ligne de sélection dans toute la Torah.